il a dit qu'il passe toujours plus de temps à penser à comment il peut être un meilleur père et un meilleur époux. Puis la raison qu'il disait, c'est qu'il dit, écoute, si je me donne à 120 % dans ma business, puis là, je me donne seulement à 80 % pour mes filles, c'est pas de la justice pour eux.
Alors, bienvenue à un autre épisode de Un Espresso avec Angelo. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Sébastien Sioux, qui est papa de deux merveilleux enfants, Théo et Eva. C'est un ingénieur de métier. Il a complété son MBA en finance au HEC. Il parle 5 langues. What the hell? Et le jour de ses 40 ans, il y a eu un feature dans le magazine, prestigieux magazine Forbes. On va en parler dans quelques instants, mais what's up, Jean-Sébastien?
Ben, merci de me recevoir, ça fait plaisir. Là, je me demande, l'espresso, il est où, là?
Ben là, justement, là, comme vous voyez en arrière de moi, on a appelé quelqu'un d'urgence parce que notre machine nous a lâché aujourd'hui même. Et ceci est inacceptable. Donc, on a appelé The Coffee Dr. Bean. C'est tout ça? On l'a appelé ce matin et il est en train de réparer la machine. Son nom, c'est Roman. Si tu veux dire what's up, Roman? Est-ce qu'on le voit sur la caméra? It's cold outside, it's nice inside. Alors, c'est très lifestyle ici. On est carrément avec un verre d'eau. Puis peut-être qu'à quelque part dans le podcast, on va avoir quelqu'un qui va nous servir un espresso. Alors, j'espère que ça va être le cas.
Faut que t'essaies notre café. J'avais tellement hâte. J'étais en route ici, puis je voulais vraiment goûter à cet espresso-là.
Écoute, imagine ma déception quand j'arrive au bureau ce matin, puis que la machine ne fonctionne pas. Premièrement, je bois comme 10 expressos par jour. Fait que là, je t'en manque en ce moment. Quand tu peux voir, je suis comme en carence. Puis, Frank?
T'es en carence aussi. Recovery with Angelo.
Moi, je me suis tenu ce matin pour ne pas en prendre. Puis là,
OK, alors notre mission, c'est qu'avant que tu partes, il va falloir que tu partes avec un bon... sans avoir bu, tu ne pourras pas partir sans avoir bu un bon espresso. Alors, Frank...
Fait que si, je ne sais pas si tu connais le concept de l'épisode. Les fournisseurs venaient au bureau chef des bureaux Rubino, des chaussures Rubino, et ils voulaient prendre un café avec Angelo. Il manquait toujours de lait et de sucre. C'est rare qu'il manque de café, mais donc ça virait en espresso. Les gens disaient « fais-moi un latte », puis finalement, ça virait en espresso avec Angelo. C'est le concept de l'épisode. Je suis l'antifou du roi. Je suis là pour calmer le jeu d'Angelo, parce qu'Angelo, il est cranky. Fait qu'un moment donné, il me dit « viens, tu vas être comme poser un peu l'énergie pour juste équilibrer le tout. » C'est mon rôle ici. Puis moi, avant qu'on commence dans l'entrevue, j'aimerais que... tu nous décrives qu'est-ce que Suitably, excuse-moi, j'ai beaucoup de misère à le dire, on dirait que ça fait pas Suitably, ta compagnie. J'aimerais que tu le décrives pour les auditeurs qui savent pas c'est quoi, comme juste décris-nous qu'est-ce que c'est.
Bien, écoutez, Suitably, c'est une compagnie qu'on a partie il y a environ 6 ans. Ça va faire 7 ans dans quelques mois. D'ailleurs, Angelo, il nous connaît presque dès le début où est-ce qu'on participait dans les fameux galas Rubino qu'on a extrêmement hâte de refaire dans les... j'espère que cette année, j'espère.
Moi aussi.
Mais Suitably, c'est une compagnie qui fait des costumes ou des complets sur mesure. Comme la bannière de Rubino, la compagnie de Rubino, on a beaucoup évolué aussi à travers les années. On était très traditionnel dans le début. On se rendait chez les gens, on mesurait les gens et puis on faisait livrer les habits sur mesure sur place. On a réalisé avec le temps que pour grandir, il fallait avoir une échelle, puis avoir de la croissance. On pouvait plus faire, on pouvait pas s'imprimer en 2, 3, 4 fois et puis faire ce service-là et puis continuer de grandir. Alors, on a vraiment exploité beaucoup nos forces en ligne. Alors, on utilise aujourd'hui de l'intelligence artificielle, puis des algorithmes, des designs pour pouvoir concevoir des habits sur mesure et puis les faire à travers l'Amérique du Nord. Et on commence un peu plus maintenant en Europe aussi.
Wow! Puis, ça s'adresse à qui?
C'est une très bonne question. On a... c'est sûr que, typiquement, dans le passé, les habits sur mesure, c'était pour les gens de haute classe, des gens qui pouvaient s'offrir de se payer plus et puis qui ont le temps de se faire avec des passions pour les habits sur mesure. Nous autres, on a pris l'approche où est-ce qu'on se disait on doit baisser un peu la barrière d'entrée pour les gens. Alors, que ce soit un gradué, que ce soit quelqu'un qui va aller à son bal de finissant de graduation ou ces choses-là. Alors, c'est pour les hommes qui, de 18 ans jusqu'à 45, 50 ans, je dirais qu'on se situe là-dedans. C'est sûr qu'on fait beaucoup de mariages, beaucoup d'hommes d'affaires aussi qui font partie de notre clientèle. Et je dirais qu'on sait beaucoup les gens qui n'ont pas vraiment le temps de passer du temps à prendre un espresso ou bien un whisky, puis prendre le temps, 3, 4, 5 visites. Nous autres, c'est plus opérationnellement, on veut vraiment rouler pour les gens qui ne veulent pas nécessairement s'asseoir 1, 2, 3 heures avec un tailleur. Mm-hmm.
Oui, c'est pas la passion de tout le monde de juste aller s'asseoir avec un tailleur, se faire prendre des mesures et tout. Puis... l'autre chose, j'ai vu sur votre site, c'était écrit « Votre premier costume, nous le retoucherons ou nous le referons. » Dans le fond, s'il arrive et il ne fait pas comme tu veux, vous le refaites. Oui. Mais c'était écrit « Le premier costume ». Moi, j'ai une question parce que je suis le genre de gars qui a pesé 300 puis 190 livres. Fait que j'ai eu plusieurs costumes. Un client comme moi qui en a jeté un, mettons, à 250 livres, qui en rajoute un à 200 livres, est-ce que le deuxième, vous le retouchez pareil?
C'est une très bonne question. C'est sûr qu'il y a des cas, tu sais, il y a toujours un fringe là, de 5, 10 % de gens qui ne fitent pas dans les politiques de la compagnie. C'est sûr que, Angelo, tu connais ça aussi. Il y a toujours quelqu'un qui va trouver, ou bien essayer de trouver un moyen de pouvoir fitter dans la politique de retour ou bien de refaire ou bien de renvoi pour une compagnie. Nous autres, notre objectif, notre premier objectif, là, c'est de s'assurer que notre clientèle est contente. Mm-hmm. C'est sûr que pour quelqu'un qui va changer de poids 100, 200 livres, c'est des cas uniques. Mais on a appris à travers nos ventes dans le passé qu'avant de faire un habit, on fait notre due diligence. Alors, on a des alertes dans notre système qui dit « Wow, 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 les mesures ont complètement changé. » ce que la personne a commandé est complètement différent en termes des réponses sur notre algorithme qui existe ou bien les mesures qui sont entrées. Dans ce cas-là, nous autres, on a un flag puis on communique avec les clients. Je dirais aussi que nos clients ont tendance à être quand même assez intelligents. Dans le cas où est-ce qu'ils vont changer quand même beaucoup de poids, ils vont sûrement faire une rencontre virtuelle avec nous ou bien nous appeler.
Ça devient comme un nouveau client.
Exact, exact.
Moi, je suis un client, d'ailleurs, Francis, je porte un veston qui m'avait fait Jean-Sébastien. Puis dedans, là, j'ai mon nom, puis j'ai une phrase, une citation. Tu peux aller lire?
C'est écrit « Perception is projection ». J'ai jamais entendu ça.
Non, jamais. Alors, je suis définitivement un client. Ta femme est enceinte de votre premier enfant. Tu es ingénieur. Tu gravis les échelons tranquillement, les échelons corporatifs. Puis tout d'un coup, tu décides de laisser le confort d'une carrière, d'une bonne paye pour te lancer comme ça en affaires. Premièrement, là, est-ce que tu peux nous décrire quelle était ta vie à ce moment-là puis pourquoi tu décides de faire le saut vers l'entrepreneuriat? Et en sous-question, tes parents sont des immigrants, manifestement un peu comme moi. On a beaucoup de similarités dans nos parcours. Ça a été quoi leur réaction? Puis... la fameuse femme enceinte à la maison, comme ouais. Tout d'un coup, tu décides de tout laisser, boum.
Ben écoute, c'est une décision qui n'était pas facile, mais c'était naturel. Dans le temps, j'avais déjà commencé, pendant que j'étais avec, je travaillais en corporatif, j'avais déjà commencé la compagnie. Et puis, j'avais souvent entendu dire, tu sais, si tu ne te mets pas à 100% dans ton projet, ça va toujours rester un projet. Alors ça, c'était une des choses. La deuxième chose, c'est la politique dans des grandes compagnies. La performance, ça égale pas toujours, on dit le reward, mais l'argent. Alors tu peux être très bon, tu peux être très pas bon du tout, mais ton salaire, ça reste quand même...
Tu étais sur une échelle salariale, dans le fond.
Exact, exact. Alors moi, je me suis toujours dit, si moi, je vais rapporter X en termes de revenus à une compagnie, je peux le faire pour moi-même. Alors, la décision de le faire, c'était risqué. Ma femme était enceinte dans le temps. Une des choses que je vais toujours... je vais être reconnaissant à ma femme parce qu'elle a toujours supporté l'idée. C'est pas facile. Elle a marié un ingénieur qui a une maîtrise. Puis là, tout d'un coup, le fou, il va devenir un couturier. Ça doit être... c'est, on n'entend pas souvent. Puis, mentalité des migrants, on est venu ici, puis le niveau de risque que mes parents ils voulaient prendre, c'est zéro. Tu arrives ici, tu n'as pas le choix. Tu t'étudies soit ingénierie, comptabilité, avocat. Tu n'as pas le choix. Alors, quand je leur ai dit, une des choses, ils m'ont toujours supporté. Ils m'ont vu à travers les années ce que je faisais. Je suis quelqu'un qui travaille fort, quelqu'un de dédié à ce que je fais. Alors, ils ont toujours supporté. Puis quand Théo il était né, j'ai eu beaucoup de support de la part de mes parents qui venaient
le garder. Whatever.
Puis eux autres, ils aiment ça aussi. Puis Théo, c'est un petit ange. Fait que ça a été le fun.
Non, mais c'est ça que je disais. On a tellement de similarités parce que, premièrement, moi, j'étais avocat de formation. Puis là, j'ai laissé la pratique pour aller vers l'entrepreneuriat ou travailler avec la famille. Tu travailles aussi avec ta famille parce que cette compagnie-là, tu l'as cofondée avec Jérémy, qui est ton frère. Fait que ça, j'ai trouvé ça comme très drôle. C'était bon comme histoire. Fait que quand tu laisses le travail, là, tu décides comme ça de te lancer en affaires. Au début, ça a dû être difficile.
C'est pas facile. Une des choses que je recommande souvent, c'est pour les gens qui vont aller commencer une compagnie, il faut que tu aies un coussin. Tu ne peux pas juste avoir tes 10 $ dans les poches puis dire, OK, je vais me partir la compagnie parce que tu vas avoir des mois, tu vas avoir des années qui vont être challenging. Alors, c'est pour ça que Jérémy il s'est joint à moi après 2 ans. C'était un petit compromis que j'avais fait avec mes parents. Jérémy était, il allait se marier, puis on s'était dit, écoute, tu peux pas laisser ton travail aussi. Puis deux garçons qui commencent leur compagnie, et puis on sait pas si ça va marcher ou pas.
Est-ce que tu t'es senti que si ça marchait pas, au moins tu pourrais retourner vers l'ingénierie?
Ouais, c'est pour ça que je me dis toujours, à la fin de la journée, il y a rien de perdu. Ce que t'as appris comme avocat, ça revient aujourd'hui, c'est sûr, ta façon de penser. Bien juste, peut-être que tu le réalises pas, mais la façon de penser, la discipline que tu as dû avoir ou bien pas avoir, tu sais, tous les apprentissages qui nous emmènent ici, éventuellement, ça a un impact sur nos vies. Alors pour nous, c'était, écoute, étudier ingénierie, c'est pas le fun. Tu fais des maths. Aujourd'hui, je vois pas comment c'est applicable, mais ça a développé comme une persévérance. T'sais, je regarde des maths sur un papier, j'ai un examen de 3 heures à faire juste des équations, ça rapporte rien aujourd'hui. Mais le fait de regarder ces chiffres-là dans le temps, puis juste continuer de pousser, malgré le fait que tu comprends rien, aujourd'hui, ça vient à nous aider. Fait que là, t'sais, en étudiant à l'ingénierie, je vais toujours C'est un filet de protection. Alors, je me suis toujours dit, écoute, si ça marche pas, je suis quelqu'un de compétent, je vais toujours pouvoir trouver du travail.
Puis ton expérience entrepreneuriale va venir bonifier ton côté ingénieur aussi. Mettons que tu aurais à retourner en ingénierie.
Exact. Cette expérience. Exact. Les gens qu'on rencontre, j'aurais jamais rencontré Angelo, les gens qu'on rencontre comme entrepreneur, ça n'a rien à voir. Souvent, dans des grandes compagnies, toi, tu fais ta position A, B, C, tu rencontres juste ces gens-là. Là, comme entrepreneur, je rencontre le gars qui fait le ménage, je rencontre le gars qui nous fournisse des tissus. Fait que les gens qu'on rencontre, c'est...
C'est ça, tu dois te faire des contacts incroyables parce que tu dois avoir des athlètes, des artistes qui viennent faire un habit. Tu dois avoir autant l'homme d'affaires, le CEO, que le CFO ou la personne qui, comme tu disais tantôt, a son, comment on appelle, bal définissant, puis là, il vient puis il veut se faire un habit. Fait qu'il y a ce contact-là. C'est vrai que quand tu travailles dans une structure corporative, tu as beaucoup moins de rapports puis de contacts avec le public. Le retail, la vente au détail, c'est comme définitivement, là, c'est beaucoup de connexions avec les gens.
Je vous dirais que ça me manque aussi quand on grandit, on vit une croissance dans une entreprise, le temps dédié aux clients est moins. On le comprend tout. Puis aujourd'hui, avec la pandémie et puis tout ce qui est dans le détail qui commence à être en ligne, on passe moins de temps avec les gens. Alors, c'est sûr que moi, je me rappelle des premiers 1000 clients très bien parce que forcément, on passe au moins 1 heure avec chaque client. C'est moi, c'était moi. Je mesurais, je passais du temps, on fait des conversations. Fait qu'après 5-6 ans, on voit le progrès de nos propres clients. Qu'il y a des étudiants, il y a des hommes d'affaires. On se suit des fois sur les réseaux sociaux. Fait qu'on voit la progression même de nos clients. Alors, on établit des relations avec les gens qu'on fait affaire, des belles relations. Et puis, c'est le fun de voir ça. Malheureusement, avec le monde qu'on vit, que ce soit sur le metaverse un jour ou bien que ce soit en ligne, les relations qu'on développe sont un peu moindres dans la croissance, malheureusement. Alors, c'est un peu des choses qu'on manque. Ça me manque personnellement, la touche humaine. En plus, avec la pandémie, c'est pas facile.
Moi, je vais en profiter parce que je pense que c'est un sujet qu'on aborde très peu souvent dans l'entrepreneuriat. De parler de tes parents qui t'ont supporté, de ta femme qui t'a supporté. Puis, je pense que c'est vraiment un critère de réussite d'avoir un environnement qui te supporte. On n'en parle pas assez souvent parce que c'est sûr que si ta femme n'est déjà pas d'accord, quand tu as un mois difficile, bien là, tu as ta femme en plus qui te dit genre, je t'avais dit de ne pas faire ça. Ça ne l'aide pas à vouloir continuer ou. T'as plus de chances de lâcher quand tu n'as pas l'approbation de ton environnement.
C'est sûr, les gens qui t'aiment doivent te supporter. Mm-hmm. Mais les gens qui t'aiment aussi vont être les premiers à te dire que quelque chose ne marche pas. Parce que tu vas toujours avoir des gens qui vont, no matter what, te dire « Ah, tu vas bien, continue, lâche pas. » Mais il y a des projets qui ne vont pas marcher. Dans chaque entreprise, tu fais des choses, tu as des projets, ça ne marche juste pas. Tu as besoin des gens qui sont proches de toi, qui te supportent. Qui vont te dire, écoute, ton projet de faire des nœuds papillons, là, ça ne marche pas. Ou bien ton projet de faire une chemise, ça ne marche pas.
D'être honnête. Parce que des fois, si ça ne rend pas service, tu sais, moi, je vois beaucoup de gens qui disent, ah, j'ai tel projet, j'ai parlé à lui, puis il dit, tu sais, ça m'intéresse, ça serait bon, mais il t'a-tu donné un dépôt? Il t'a, tu sais, comme. À quel point que je n'ai pas juste dit ça parce que ben il veut être gentil puis c'est ton ami puis il veut pas te décevoir, mais dans le fond il pense à tellement l'inverse.
C'est qui ça touche la poche de qui?
C'est ça.
C'est ça touche ma poche, ça touche la poche à mon épouse. Si quelque chose ne marche pas, c'est eux qui vont devoir payer le prix. C'est sûr que tu as toujours besoin d'un cercle qui est très qui supporte ce que tu fais. C'est très important parce que être entrepreneur ou bien être dans la business. Tu vas avoir des mois, tu vas avoir des années où est-ce que ça va être difficile. Mais tu dois avoir des gens qui sont capables de te supporter, que ce soit émotionnellement, que ce soit financièrement aussi, c'est très important. Ils doivent être là. Tu dois sentir que souvent les entrepreneurs, ils aiment prendre, c'est dire c'est moi qui a bâti cette compagnie, c'est moi le champion, c'est moi
prendre
qui l'a fait.
Prendre le crédit.
Le crédit. Mais souvent c'est comme oui, mais tes enfants t'ont pas vu pendant 2 semaines. Ta femme a dû être avec tes enfants pendant 1 semaine pendant que tu étais en voyage d'affaires. Tes parents sont venus, ils ont aidé, ils ont fait de la bouffe, ils ont amené de la bouffe pour ta femme et puis tes enfants. Tu sais, c'est des petites choses comme ça qui, ça aide. Alors, c'est sûr que dans les premières années, c'était difficile, mais la famille, c'était là pour le support. Alors, justement, comme on disait, les entreprises familiales qui marchent bien, c'est parce que c'est un support. On s'entraide. Mon frère, il vient tout juste d'avoir un bébé. Moi, j'étais à la maison les 2 premières semaines de l'année parce que j'ai eu la COVID. Je ne sais pas comment
comme
j'ai
tout
eu.
Le
j'étais allé à Costco. 2 jours plus tard, je commençais à sentir des affaires. Alors, c'est la famille, on s'est entraidé. Je pense qu'il faut être content dans le foyer, chez nous.
Okay.
Parce qu'on sait tous, si jamais les choses ne vont pas bien dans la famille, aller au travail, c'est pas facile. Ouais, alors, quand mon père il était malade il y a 2 ans, c'était très difficile pour nous, Jérémy et moi, de continuer de travailler parce qu'on a une préoccupation dans la tête. Alors, la santé, c'est super important, mais avoir un foyer qui va bien, c'est très important. Je suis grand fan de Kobe Bryant.
Okay.
Puis je regardais toujours ses vidéos quand j'étais jeune, puis il avait dit une chose dans un podcast qui m'a vraiment touché. Il a dit qu'il passe toujours plus de temps à penser à comment il peut être un meilleur père et un meilleur époux. Puis la raison qu'il disait, c'est qu'il dit, écoute, si je me donne à 120 % dans ma business, puis là, je me donne seulement à 80 % pour mes filles, c'est pas de la justice pour eux. C'est pas juste que je mets 120 % à jouer au basket puis avoir du succès, Puis là, quand je retourne chez nous, j'ai pas l'énergie de jouer, passer du temps avec eux. C'est sûr que c'est impossible de donner 120%. On a
à tous
nos...
domaines.
Non, mais des fois, on rentre chez nous et puis on est épuisé. Mais il faut toujours se rappeler, tu sais, il faut essayer, puis on n'est pas parfait. On continue de s'améliorer comme père, comme mari, comme...
Parce que si je ne me trompe pas, ta femme aussi, elle a un travail qui est exigeant, elle est pharmacienne.
Oui.
Fait que ça doit pas être évident.
C'est pas évident, on se supporte. Écoute, on est chanceux dans le sens qu'on a la flexibilité, les deux maintenant, de pouvoir prendre du temps, parce qu'on a quelques employés, on est capable de le faire. C'est sûr que la pandémie, ça a été très difficile pour les pharmaciens au Québec, parce que les gouvernements, aujourd'hui par exemple, c'est tous les tests rapides, la responsabilité, ça tombe sur les épaules des pharmacies. Alors, quand le gouvernement n'envoie pas assez de tests rapides, puis tu as 500 personnes qui sont en ligne pour des tests rapides, imagine l'expérience client, les gens, ils blâment pas le gouvernement, ils blâment la pharmacie qui a pas assez de tests rapides. Alors, c'est des moments extrêmement... c'est stressant pour les entrepreneurs comme ma femme. Mais là, tu sais, elle doit travailler des heures qui sont bizarres, tu sais. Et puis, quand j'ai eu la COVID, forcément, elle aussi, elle a eu la COVID. Alors, trouver des gens pour remplacer la main-d'œuvre aujourd'hui, c'est pas facile. Alors, heureusement, je veux dire, on a le luxe de pouvoir s'entraider. Alors, on s'aide. Pendant les premiers mois de la pandémie aussi, on a dû fermer nos portes pendant quelques semaines. Moi, je suis resté avec les enfants à la maison. Et puis, c'est un service essentiel, alors ça ferme jamais, les pharmacies.
On vit d'un monde de succès instantané, les dragons de ce monde, le crédit est facile. Puis, je veux lire une citation, je vais prendre le temps de la lire. Tout a été organique et bâti avec sueur, sang et humilité. C'est tiré de votre histoire sur votre site web. Vous autres, vous avez définitivement choisi un modèle plus old school ou peut-être pas tendance en Amérique du Nord parce que le modèle, on le voit en Europe, qui fonctionne peut-être mieux. Tu peux-tu nous parler du choix d'y aller comme vraiment de dire on va bâtir notre entreprise, on va reprendre les profits pour la faire croître au lieu d'aller chercher du financement? Peux-tu nous parler des... Comment qu'on est venu à cette décision-là, les avantages, mais surtout, comment qu'on fait pour ne pas flancher? Parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est facile, là, tu reçois des lettres à tous les jours, American Express, 100 000 pour votre compagnie, puis comment...
J'adore cette question-là. Honnêtement, c'est une partie, c'est parce que personne ne voulait nous au début, les gens nous regardaient, puis... OK, juste une autre compagnie de suits. Alors, c'est comme... je me dis toujours, on vit dans un monde où est-ce qu'on voit les Shark Tank, les œils du dragon, puis c'est devenu fashion de vouloir emprunter de l'argent. C'est facile aujourd'hui d'emprunter de l'argent. Les taux d'intérêt sont bas. Nous autres, on s'était toujours dit, si on va bâtir une business, on comprend les cycles économique. On sait que l'argent, ça peut arriver, ça se prête facilement pendant 5 ans. Pendant un autre 10 ans, ça se prête pas aussi facilement. Qu'est-ce qui arrive à notre compagnie? Fait qu'on s'était toujours dit, premièrement, avant d'emprunter de l'argent, c'est facile de dépenser de l'argent qui n'est pas le nôtre. Si jamais on va dépenser de l'argent, on veut que ce soit notre argent. Chaque dollar qu'on dépense, on se dit, ça doit compter parce que c'est mon argent que je mets. C'est facile de dépenser de l'argent qui n'est pas le nôtre. Puis deuxièmement, est-ce que notre compagnie peut survivre sans constamment l'injection de liquide? J'ai déjà écouté un entrepreneur, le fondateur de Under Armour, qui avait dit, quand il a commencé sa compagnie, il y avait plus d'argent. Puis il disait, est-ce que je devrais aller me chercher de l'argent? Puis là, il s'était toujours dit, je ne comprends pas le point. J'ai un coffre plein de T-shirts dans mon auto. Si j'ai besoin de l'argent, va les vendre. Tu vas te créer ton cash flow. Alors, essaye de créer ton cash flow au début et puis mets-toi dans une situation avantageuse. L'autre chose, c'est que quand tu n'as pas de compagnie puis tu n'as pas de profit puis tu vas aller chercher de l'argent, les gens qui vont te prêter de l'argent, ils savent que tu ne fais pas d'argent. Alors, les conditions d'emprunt sont pas nécessairement les meilleures. Fait que l'idée, c'est toujours, tu sais, on va se mettre dans une position la plus avantageuse, une belle position. Je dis jamais que je prendrai pas du financement, mais il y a toujours le bon moment pour le faire. Si on est, c'est trop jeune dans l'évolution d'une entreprise, on se dit, j'ai pas encore atteint mon potentiel. Tu sais, là, je suis prêt à grandir à une échelle, mais comme je dis, quand on commence à prendre l'argent tellement tôt dans la vie d'une entreprise, qu'est-ce qui nous dit qu'à chaque année, on ne va pas devoir aller chercher encore du financement? Puis on le voit pendant la pandémie, les compagnies qui ont trop abusé du financement, ils ont pas pu livrer la marchandise et puis malheureusement, ils ont dû fermer leurs portes.
Exactement. Je sais que toi, ton approche est très similaire à l'approche de Rubino. Tu essaies d'être un low-cost operator, donc de garder tes dépenses au minimum. Donc, j'ai vraiment aimé cette approche-là. Je sais qu'au départ, c'était pas mal un one-man show. Donc, tu faisais tout toi-même pour couper justement dans les dépenses puis avoir une croissance qui est organique. Fait que félicitations parce que c'est pas, comme on a dit, quelque chose de très populaire aujourd'hui. C'est une façon très traditionnelle de faire les choses. Si je fais le parallèle avec ma famille, eux, ils ont décidé d'acheter les bâtisses où est-ce qu'on aurait nos magasins. Donc, la plupart de nos magasins sont dans nos bâtisses. Fait qu'on voulait se payer un loyer à nous-mêmes, justement dans l'idée de réduire les dépenses. Puis notre modèle, c'était pas d'être dans un Carrefour Laval puis de payer, je sais pas moi, combien, 100 $ du pied, 80 $ du pied carré. Pour nous, ça faisait pas de sens. Donc, ultimement, tu génères des ventes. Mais j'aime quand, parce que j'ai écouté plusieurs de tes entrevues que tu as faites, tu parles de, ultimement, qui est important, c'est la profitabilité. Je sais pas si tu peux élaborer un petit peu sur ça.
À la fin de la journée, il faut faire de l'argent. Tu peux pas juste emprunter de l'argent et puis te faire un beau petit salaire, puis ça dure 2-3 ans, puis après, c'est fini. À la fin de la journée, il faut regarder son balance sheet puis dire est-ce qu'on fait de l'argent ou pas. Alors, une des choses qu'on se dit toujours, c'est on veut-tu être en business pendant 3 ans ou on veut être en business pendant 20 ans? Moi, j'aimerais plus être en business pendant 20 ans. Alors, étant donné les cycles économiques, les pandémies, ces choses-là, il faut être intelligent. On s'était dit, il faut être intelligent de la façon qu'on va avoir nos dépenses. Alors, le plus de dépenses fixes qu'on prend, on est plus vulnérable aux cycles économiques puis des guerres, du terrorisme, des choses comme ça. On en a vu pendant les dernières 20-30 ans de notre vie. Alors, c'est très important de pouvoir garder nos coûts bas, intelligents. On se paye nous aussi, on vit une vie. C'est très facile de pouvoir opérer un start-up et puis vivre dans un condo, pas d'enfants, c'est très facile. On se dit, tu sais, où est-ce que j'aimerais me voir dans 10 ans? Est-ce que ce mode de vie-là, ma business, ça peut soutenir ce type de mode de vie? Alors ça, c'est une chose. On sait aussi, quand on prend trop de coûts, c'est qui écope à la fin de la journée? C'est nos clients. Les compagnies, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent leur prix. Alors, je passe juste mes coûts de location, tous les salaires.
L'expérience. Parce que c'est ça, quand tu vas dans une boutique high-end, tu finis par payer le décor, tu finis par payer le café ou peu importe qu'on te sert.
Exactement.
Mais toi, ton objectif, c'était de donner l'expérience custom, bespoke, un produit qui est unique. Ouais. Donc, je le dessine selon ma taille. C'est pas off the rack, comme on dit. Donc, tu sais, nous, notre industrie, c'est très différent. On est dans la chaussure qui est très mid-tier mass market. Mais tu as décidé d'aller vers ça, mais en ayant un prix qui est très abordable. Fait que tu essayais quand même de faire du volume.
C'est ça. Alors, nous autres, on s'était dit, tu sais, on veut... Tout le monde, des fois, dans l'industrie du sur-mesure, veut être la Ferrari. Tout le monde veut vendre des Ferrari. C'est le fun de vendre des Ferrari à 1 million $. Mais en même temps, il y a des gens qui conduisent des Lexus, des BMW, des Mercedes, des belles autos de belle qualité, mais qui sont pas nécessairement 100 000, 200 000 $ de prix. Alors, on s'était dit, il faut trouver une façon d'optimiser la façon qu'on fait les affaires pour que nos produits soient plus accessible aux gens. Et puis, en le faisant, comme on parlait plus tôt, nos coûts doivent rester bas. Comme ça, on peut continuer d'offrir des produits à une bonne majorité de gens sont sans passer des coups à cause de notre inefficacité de gérer une compagnie avec des coûts qui ont du sens.
C'est vraiment intéressant, puis ça m'amène sur le prochain sujet, le futur du retail puis du e-com. Je sais que toi, tu t'instruis beaucoup là-dessus, là. Tu lis beaucoup sur ce sujet-là. Fait que, vu que tu es ici, on aimerait ça avoir ton opinion sur qu'est-ce que tu penses qui va se passer, là. Qu'est-ce qui est le commerce en ligne dans les 5, 10 ou même 20 prochaines années. On sait qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 dernières années, que c'est complètement fou, puis on s'entend que les 10 prochaines années risquent d'être aussi folles, des années de croissance exponentielle au niveau des technologies, de tout ce qui est, puis de l'expérience client qui a complètement comme changé. Toi, c'est quoi ta vision du futur?
Ça va toujours dépendre du produit, de l'industrie. C'est sûr que dans notre industrie, moi, je prends le bord de « tout peut se faire de chez nous ». Personnellement, je n'aime pas aller dans un magasin puis passer 2-3 heures avec quelqu'un. Moi, je sais ce que je veux. Je veux l'acheter. Je n'ai pas le temps de magasiner. Fait que moi, j'aime la facilité. Les choses sont faciles. Alors pour moi, j'achète en ligne. Si tu regardes le site d'Amazon, ce n'est pas très beau visuellement, mais c'est facile. Add to cart, ship. C'est fait. Alors, pour moi, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas créer ce genre d'expérience-là en ligne pour des habits sur mesure? Alors, c'est déjà, on a mis des habits qui sont déjà designés pour vous. Entrez, répondez quelques questions. Nous autres, on génère vos mesures. C'est fait. Il y a l'autre client qui aime passer du temps. Alors, les gens vont prendre de... Alors, je pense que c'est un modèle hybride qui va marcher pour nous. Et puis, je pense qu'avec l'arrivée du Metaverse, ça va permettre à beaucoup de compagnies de pouvoir offrir une expérience qui est proche de l'expérience vraie à travers la virtualité, la réalité virtuelle. Parce que tu vas pouvoir parler avec quelqu'un, faire des transactions dans ce monde-là et puis recevoir un produit chez vous. Mais il y aura toujours les gens qui vont vouloir avoir... l'expérience personnelle. C'est d'ailleurs pourquoi on va toujours garder notre bureau à Montréal pour recevoir nos clients à Montréal, pour continuer d'avoir des conversations avec nos clients, de comprendre leurs besoins d'une façon personnelle. Alors, ça doit être un pied un peu partout, mais être intelligent. Tu ne peux pas avoir 100 magasins Rubino à travers l'île de Montréal. Tu choisis tes points stratégiques pour où les avoir. Mais là, ce qu'on disait dans le passé, location, 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 je ne crois plus en ça. Pour moi, location, 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 c'est your location sur Google. T'es-tu premier ou t'es-tu dernier? C'est très important que tu te mets dans une bonne position sur les réseaux sociaux et puis sur Google, parce que c'est comme ça que les gens vont te trouver.
Mais on peut en parler de ça parce que tu es quand même très actif sur Instagram. D'ailleurs, tu as une page, tu as ton compte, toi, personnel, que tu as quand même plusieurs followers. Tu as une page business. J'imagine qu'un des nœuds de la guerre dans ton industrie, c'est le client qui retourne, c'est l'acquisition du client de customer acquisition. Parce qu'on s'entend que souvent, ça peut être comme très niche comme produit. Exemple, je me marie puis je me fais un habit. Mais comment est-ce que tu fais pour aller justement trouver ces nouveaux clients-là? J'imagine qu'il doit avoir aussi un petit peu de mouth-to-ear. Tu sais, j'ai eu un bon service chez Suitably. C'était bon, pas cher pour la qualité. Il y a un bon rapport qualité-prix. Donc ça l'aide. Mais c'est quoi les autres moyens?
Écoute, les gens, ils doivent connaître les gens, ils veulent connaître les entrepreneurs, les faces en arrière des entreprises. Je trouve que c'est très intéressant. Si je veux aller m'acheter des bonbons, j'ai pas besoin de connaître le propriétaire de la business, mais si je vais aller m'acheter quelque chose d'un peu plus personnel, parce que j'ai besoin de dépenser un peu plus, j'aimerais savoir, premièrement, je donne mon argent à qui? Parce que c'est pas tout le monde qui va dépenser 800-900 $ en ligne avec n'importe quelle compagnie. Alors, c'est important d'avoir une face en arrière de la compagnie. C'est pour ça que j'ai mon compte Instagram. Je suis pas nécessairement toujours confortable de partager ces choses-là, mais je me dis toujours, écoute, il faut des fois montrer aux gens que tu es une vraie personne, que tu vis comme tu es un père, que tu es de famille, un mari, ces choses-là. C'est important. Les gens, ils veulent savoir c'est qui la personne en arrière de la business. La deuxième chose, c'est que la qualité du contenu aujourd'hui, l'investissement dans des équipements, faire des choses créatives, je comprends pas vraiment des plateformes comme TikTok, mais il faut continuer de lire sur ces différentes applications-là pour comprendre qu'est-ce qui va attirer l'attention des gens. Alors, c'est très important d'avoir un contenu qui est unique, puis les gens vont continuer de vouloir en apprendre plus. C'est un peu comme ça.
Y a-t-il une question, quelque chose que tu aurais aimé élaborer, une question qu'on t'a pas posée ou un point que tu aimerais élaborer, peut-être qu'on t'a coupé entre-temps?
Non, ben écoute, j'ai la chance, ça fait au moins 2 ans que j'ai pas parlé avec Angelo. T'sais, on a eu la chance de beaucoup parler dans le passé quand les choses étaient plus ouvertes. J'ai vu, pour moi personnellement, Jérémy et moi, on analyse toujours les meilleurs dans l'industrie. Parce qu'on se dit que ce soit en chaussures, que ce soit en construction, qu'est-ce qu'on fait ou bien qu'est-ce que les tops ils font pour avoir du succès et puis du succès continué. Et une des choses que Jérémy et moi, on se regarde toujours, c'est, tu sais, premièrement, la marque Rubino, ça fait, tu sais, depuis 4-5 ans qu'on regarde ça. Puis Rubino, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est complètement différent. Non seulement en branding, mais la perception de la compagnie. Tu sais, pour toi, ça a été comment la transition de non, juste du tu sais, un pied sur terre, des magasins, à la transition à maintenant magasins et en ligne, la pandémie, ça a été quoi les challenges? Et puis pour avoir une perception au niveau du Québec, où est-ce que vous êtes aujourd'hui, je vous regarde, puis vous êtes quasiment les tops au Québec au niveau chaussures.
Ben écoute, merci pour ces bons mots. Je pense que l'affaire que nous, on a faite, c'est de s'entourer de personnes qui étaient meilleures que nous dans certains domaines. Puis je pense que ça, c'est la force d'un entrepreneur aussi, c'est d'être capable de déléguer puis de s'entourer des bonnes personnes. Puis au niveau du branding, tout ce qui était l'image de marque, c'est là qu'on a fait le plus gros, je pense, travail. Parce que par la force des choses, la compagnie, comme tu as dit aussi dans un autre podcast, ta mission, elle doit évoluer là, avec le temps. À moins que tu aies une vision, tu as une boule de cristal, puis tu sais exactement qu'est-ce qui va arriver dans 5 ans. Nous, au fil du temps, on a réalisé que les gens voulaient plus vraiment de chaussures importées d'Italie. Les gens, ils voulaient aller plus vers un produit de marque. Fait qu'un des gros moves qu'on a fait, c'est d'aller 100% branded. Puis au niveau de l'image de marque, tu sais, on essaie d'avoir une image qui est comme toujours... on essaie de bien représenter, de suivre qu'est-ce qui est les guides de la compagnie, autant nos visuels, le contenu qu'on crée pour Instagram, ou que ce soit une affiche ou un billboard, c'est que aussitôt que tu le vois, ben, tu sais que c'est une image de Rubino.
C'est en plein ça. T'sais, que ce soit sur un panneau, quand je conduis, ou bien sur Facebook, quand je vois une image, j'ai même pas besoin de voir Rubino. Les couleurs, la façon que la photo est prise... C'est un peu ça aussi qu'on a fait. On a dit que notre bannière sort ou pas dans l'image, la façon qu'on présente nos produits, ça doit avoir une constance à travers tous les réseaux sociaux.
C'est ça, nous, on est allé vers... Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui nous aide beaucoup ici à l'interne, Carl, mais...
Il aime ça être nommé.
Oui, c'est ça, il adore ça. Mais, tu sais, quand tu regardes une image, je pense que nous autres, une des choses, c'est qu'on voulait que le produit parle par lui-même. Fait quand tu vends des marques iconiques comme Converse, comme Timberland... comme Uggs, peu importe la marque qu'on vend, on vend toutes les plus grandes marques. Quand tu mets le produit sur un billboard, là, sur un modèle ou peu importe, le produit parle par lui-même. Fait que tu sais, souvent, l'erreur que je vois sur des affiches ou des panneaux, les gens, ils mettent le brand, ils mettent tellement d'écriture, finalement, c'est pas important, right? T'sais, c'est comme « keep it simple ». Ça, c'est aussi mon frère, tu sais, je dois lui donner beaucoup de props. Il y a un bon œil pour ces choses-là. Puis je pense qu'au début, ça a toujours été d'essayer de garder ça simple puis justement que ça soit facile. Fait que je pense qu'une des choses qu'on essaie de faire, c'est que l'expérience, elle soit simple. T'sais, toi, tu as dit, tu n'aimes pas ça passer une heure dans un magasin. Moi aussi, j'ai ça. Fait que, c'est pour ça que je ne vais pas dans des centres d'achat parce que je me dis, je dois me parker, je dois rentrer à l'intérieur. Là, le magasin ne sera pas à côté de la porte numéro 4. Il va falloir que je marche un demi-kilomètre. Pas que je n'aime pas marcher ou courir, mais tu sais, I want to be in and out. Fait qu'un magasin Rubino, c'est ça l'expérience. Tu te parques en avant de la porte, tu ouvres la porte, tu rentres en dedans. Les souliers sont disponibles. Tu peux carrément, c'est un self-service.
Ouais.
Tu n'as pas besoin d'attendre pour la fille qui va aller en arrière.
Écoute, ce qu'on a réalisé, nous autres aussi, c'est basé sur le prix de nos produits, abordable, de bonne qualité et aussi de l'expérience, que ce soit en ligne ou en magasin, on attire le genre de client que nous autres aussi, on aime. Parce que pour moi, le client qui va rentrer puis demander 20 000 questions sur un habit, ouais, c'est le fun, on aimerait vous répondre, ça va prendre 2-3 heures. Comment est-ce que... Mais en même temps, on veut le gars qui dit, OK, mais je veux avoir l'air professionnel dans mon travail, je veux quelque chose de bleu, je veux que ça soit beau. Qu'est-ce que vous me... c'est qui les experts? Qu'est-ce que vous me recommandez? Et c'est fait. Mais le client qui
c'est
va demander...
C'est sûr que si le gars, il veut payer 10 000 $ pour un habit, exact. Il va pouvoir passer 3 heures. C'est exact. Ça aussi, tu sais, tu as un petit peu pour qu'est-ce que tu payes. Là. Le exact. Service qui vient avec, c'est pour qu'est-ce que tu payes. Fait que nous, c'est exactement ça. Jean-Sébastien, c'est les gens, ils rentrent, ils ont un bon prix, ils ont un produit de marque, mais tu sais, ils vont dire, oh, il n'y a pas bien des fois de service ou la personne qui est là, elle n'a pas énormément ouais. d'expérience, mais ça fait partie du modèle d'affaires. Ouais. Tu rentres, c'est simple, tu prends ta boîte, tu l'essayes. Attends-toi pas à avoir 3000 conseils. Fait que, si exact. Tu veux aller dans une boutique spécialisée puis ils vont te donner des conseils sur l'arche du pied puis tout ça, puis la largeur, c'est définitivement c'était, pas la place. Fait que, de ça. Savoir c'est qui ton client puis à qui tu parles quand tu fais justement autant une publication, une annonce, une promotion, mais nous, c'est ça le travail qu'on a fait au courant des dernières années. Puis je pense que la pandémie, bien, ça l'a aidé, ça, mm-hmm. à vraiment se dire, bon, mais là, à qui qu'on veut parler? Tu sais, le budget exact. De marketing qui était passé de X à Y, là, parce que tu sais pas où est-ce qu'on va s'en aller dans la vie, mais là, il faut que tu te dises, bon, mais là, il faut qu'on focus, là, c'est quoi, à qui qu'on veut parler? Puis souvent, bien, c'est des choses qui vont générer des ventes directes. Autant du marketing direct, je sais pas, toi, c'est quoi les différentes choses que tu utilises? J'imagine Instagram, Facebook, tu dois faire des ads, mais tu sais, autant Google, les gens vont rechercher des modèles aujourd'hui. Je cherche un Nike Tangent, je tape le nom sur Google. Tu veux être capable d'avoir de la visibilité, autant de façon organique, parce que ton site se positionne bien, mais aussi de pouvoir payer pour avoir
c'est
des
sûr.
Bons leads.
Parce qu'on a, le luxe d'avoir un produit visuel. C'est sûr que les réseaux sociaux, ça marche très bien pour nous. Mais en même temps, il faut qu'on soit présent dans les engins de recherche. C'est très important. Mais je suis complètement d'accord de ce que tu disais. C'est on peut pas tout offrir. Il y a un prix à tout. Alors on a beaucoup de gens qui disent, je veux juste venir dans votre atelier puis passer 2 heures à vous demander des questions avant que je prenne une décision. Je dis, OK, ça serait bien, on le faisait dans les premières années, mais aujourd'hui, les consultations se font principalement virtuelles comme tous nos clients. Les gens qui disent « Ah, oh, je veux toucher des tissus », oui, ça c'est le fun, mais avoir quelqu'un staffer des gens pour venir, pour accueillir des gens pour toucher des tissus, ça se fait en ligne. Les gens peuvent même commander aujourd'hui sur notre site web des échantillons de tissus. Fait que l'expérience peut tout se faire en ligne, et puis quand vous êtes prêt à faire votre achat, on va vous servir, on a une heure et demie, on vous montre les tissus, on choisit les styles, on vous mesure, c'est fait. On peut pas passer 3, 4, 5 heures.
Tu as dit quelque chose qui m'a comme frappé. Tu as dit on est numéro 1 maintenant au Canada pour ce type d'habit-là sur mesure, puis aux États-Unis dans le top 5.
Moi, personnellement, c'est sûr que je regarde mes compétiteurs côté produit, prix, côté brand. Moi, au Canada, si on fait une recherche Google, on va être dans les tops. Aux États-Unis, on travaille encore. C'est sûr que, basé sur le prix, qualité, je dirais qu'on est dans les top 5. Le problème avec les États-Unis, c'est que tellement un grand marché. On parle d'une population beaucoup plus grosse que la nôtre. Alors, il y a du travail à faire dans la marque aux États-Unis. Mais notre focus, surtout avec la pandémie, c'est local. Parce que les gens... sont focusés sur toutes sortes d'affaires pendant la pandémie. Nous autres, on se dit, si on n'a pas un succès local, puis il n'y a rien au Québec, on peut avoir... On a juste besoin du Québec, c'est un marché énorme, on peut avoir beaucoup de succès au Québec. Mais il faut... You need to hold the fort. Ici, c'est à Montréal. Si tu perds Montréal, tu perds le Québec, il n'y a pas de point d'aller essayer de vendre au Vermont.
Tu veux pas trop t'éparpiller, dans le fond, pour perdre la... C'est quoi l'objectif?
C'est du spray and pray. Je suis pas fan du spray and pray.
Excellente nouvelle. On vient tout juste de recevoir un espresso. Donc, la machine qui est réparée. On fait un petit cheers comme ça. Centani. Salute. Ah, et Dieu créa le café. Merci, c'est prêt. Alors, on sait que tu es pressé, JS. Donc, on va aller rapidement dans le segment express. Si on te pose une question, puis tu choisis entre les deux.
OK. Fermé. Quand même cool de boire un espresso pendant le segment express.
Ouais. Mais concept. C'est comme un tease, là. On pourrait faire ça dorénavant.
Ça se fait plus rapidement.
Ouais, c'est ça. Go, go, go.
Donc, entre une cravate et un nœud papillon.
Cravate.
Cravate, all the way. Marathon ou sprint?
Marathon.
Ah, je m'attendais à cette réponse. dress shoe ou sneaker? Donc, un soulier habillé ou un chaussure sport?
Sport.
Sport, hein?
Ouais.
Mais on voit aussi que nous autres, là, dans le département des hommes, c'est le dress, là, c'est terminé. Tu sais, je veux dire, ouais. Même les gens qui vont mettre un bel habit comme le tien, on trois mette, pièces, vont ouais. mettre quelque chose plus sport ou plus casual dans leurs pieds.
Ouais.
Donc, toi aussi, tu vois cette tendance?
Oui. Quand les petits secrets, quand les clients ne sont pas là, je vais mettre mes sneakers. C'est plus confortable.
Ah! iPhone ou Android?
iPhone.
Fashion victim!
Est-ce que tu es un gars qui a investi dans Bitcoin?
Non.
Non, tu ne crois pas à la crypto en général?
Non. Zero. Non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dans ça. Je ne veux pas leur trigger, là, mais non, je ne crois pas dans le Bitcoin. Je pense que... Non, je suis traditionnel.
Fair enough. Je sais que tu aimes vraiment écouter des podcasts puis tu aimes écouter des podcasts de gens qui ont réussi. Est-ce que tu pourrais m'en conseiller un là, que je devrais absolument écouter?
Honnêtement, quand j'écoute des podcasts, parce que je veux écouter les gens qui sont real. Alors, des questions qui sont real. Alors, j'aime le podcast de Schultz. C'est très, très... c'est le fun. Ils rient, ils font plein de jokes. C'est sûr qu'il y a Joe Rogan, j'écoute. C'est le fun parce qu'il c'est vu sur toutes sortes d'affaires. On peut être d'accord ou pas, mais c'est toujours... Il y a toujours des invités qui sont super, super le fun. J'ai All the Smoke. Parce que All the Smoke. J'adore le basketball. C'est une des choses que les gens ne connaissent pas, mais je regarde tous les matchs des Raptors. J'en manque pas. Ma femme, elle aime pas ça que je passe tout mon temps à regarder les Raptors le soir, mais j'aime beaucoup ça. Alors, All the Smoke, ils ont beaucoup d'invités, des ex-joueurs de basketball, des joueurs de basketball. C'est le fun d'entendre des histoires des gens qui sont dans l'échelon 1-2 % dans le monde, comment est-ce qu'ils pensent de la vie comme athlète.
Et tantôt, tu as cité Kobe Bryant. Je pense que j'ai jamais été aussi sous le choc quand j'ai appris le décès de quelqu'un. Là. C'était... En plus que Kobe, je sais pas si tu savais, mais il parlait vraiment parfaitement italien.
Ouais. Il est né en Italie.
Son père jouait au basket.
Ouais. On entend souvent des célébrités qui vont pleurer, qui vont mourir. Puis des gens qui pleuraient, j'ai jamais compris ça. Mais quand Kobe était mort, j'étais tellement un amateur de Kobe que j'étais assis sur mon divan. Et puis ma femme était à côté de moi, puis j'ai juste commencé à pleurer. Je contrôlais pas.
Incontrôlable.
Ouais, puis je me demandais toujours comment est-ce que tu peux pleurer pour quelqu'un que tu connais même pas. Mais ça m'est arrivé, puis...
Mais moi, c'est aussi qu'est-ce qu'il représente. C'était un père, il était avec sa fille. Moi, j'ai une fille, je sais pas, ça m'a comme touché, on dirait encore plus.
Il était tellement fier d'être un père de fille. Les gens disaient toujours, t'sais, Kobe, t'es quelqu'un avec beaucoup de... T'es fort, t'aimes le basket, tu fais des jeux, t'sais, quelque chose d'intense, quelque chose d'homme, tu sais. Comment est-ce que tu te sens de ne pas avoir eu de garçon? Puis il dit, c'est la meilleure affaire, être père de fille. Puis moi, je dois l'admettre, là, maintenant que j'ai une fille, c'est sûr que j'adore Théo, mais la relation entre père et fille, c'est spécial.
C'est différent. C'est une relation privilégiée.
Ouais.
Francis aussi qui a une fille et un gars.
Exactement.
Mais est-ce que tu serais d'accord avec cette...
Totalement d'accord. L'amour d'une petite fille pour son père, c'est magique.
C'est spécial. Ça m'a changé comme père, c'est ça.
Wow! Est-ce que tu as une recommandation de livre que tu voudrais nous suggérer?
Art of War.
The Art of War, Machiavel?
Sun Tzu.
OK, sorry. Ouais. Wrong book.
Ah, Art of War.
Mon frère, il voulait que je lise Machiavel. J'étais comme, take it easy.
Non, on lit pas ça.
Art of War. Je suis passionné de la business, mais j'aime mes compétiteurs parce qu'ils nous poussent, mais je les déteste en même temps.
I like that. T'es un gars compétitif.
Je suis compétitif. Je suis un des peut-être pour ça que j'aime Kobe. Dans mon industrie ou bien de ce que je fais, je suis très compétitif.
T'en as parlé sur un podcast, justement, votre obsession à toujours être meilleur.
Je dois être meilleur.
Ça vous empêche de dormir si vous l'êtes pas.
J'ai pas besoin d'être bon dans tout. Mais si je me focus sur une chose, j'arrête pas jusqu'à temps que je suis meilleur. Fait que c'est le cas pour Soulubri. Je veux pas. Les gens me demandent toujours pourquoi est-ce que tu focuses pas plus sur des accessoires. Non. Avant que je fasse ça, je dois être numéro un dans les suits.
Non, mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu une conversation avec ma fille qui était à mon bureau. Elle faisait de l'école à distance. Puis j'ai dit, tu sais, comment tu fais pour avoir ça? Puis là, je montrais, exemple, un bac en droit. Puis je dis, t'as pas besoin d'être le meilleur ou être intelligent. Faut juste que tu travailles vraiment fort puis que t'abandonnes jamais. C'est ça la clé. C'est ça que tu retrouves dans un entrepreneur. C'est pas nécessairement les meilleurs dans leur industrie. Mm-hmm. C'était juste ceux qui ont travaillé le plus fort puis qui vont faire « whatever it takes to make it ».
J'ai entendu une ligne qui m'a restée dans la tête. Puis Jérémy aussi, il en parle toujours. Il dit, si vous regardez du sport, là, ben, dans mon cas, c'est le basketball. « Talent goes away in the fourth quarter ». Right? Tu peux avoir tout le talent dans le monde, l'intelligence dans le monde, mais quand c'est le quatrième quart, t'as plus de jambes, t'as plus de souffle, il reste juste le cœur. Et ton talent, il est parti dans... Moi, j'ai hâte au quatrième. C'est quelque chose que je trouvais intéressant.
Un homme de cœur comme ça, heart. T'as-tu une citation inspirante à life motto?
Life is not a spectator sport. Il y a beaucoup de gens qui aiment observer, regarder comme spectateur, mais live it.
Ouais. Ouh. T'as pas envie d'être un gérant d'estrade. T'as pas envie de voir la parade passer.
Non, je veux la vivre.
Puis je pense que tu l'incarnes bien aussi.
Oui. Ouais. Les deux dernières années à la maison, un peu moins, mais...
T'as survécu.
Oui, exact.
Ben écoute, on en a appris un peu plus sur Jean-Sébastien, puis je pense qu'il crack the code parce que le gars a 40 ans, il a de l'air d'en avoir 20. Il a une super belle famille, très belle réussite, autant au niveau professionnel que familial, parce que je pense que c'est comme ça qu'on calcule la réussite de quelqu'un. C'est pas nécessairement avec l'argent qu'il y a dans son compte de banque. Pour moi, c'est t'as réussi quand, dans plusieurs aspects de ta vie, t'as eu un beau succès comme le tien. Fait que félicitations, Jean-Sébastien. On aime ça, à la fin, céder le micro à notre invité pour que tu puisses plugger tout ce que tu veux. It's your moment, my friend. So.
Ah, écoute, merci à vous. C'est très inspirant de voir ce que vous faites. Pour moi, il y a tellement de podcasts. Tout le monde, dernièrement, je vois tout le monde veut faire un podcast, mais j'apprécie beaucoup ce que vous faites. C'est le fun de voir non seulement la qualité de production, mais les questions que vous demandez, c'est pas uniquement... sur l'entrepreneuriat, ça a à faire beaucoup avec des gens, des vraies questions. Alors, c'est le fun. Je suis très... je suis humblé pour... Ça me fait humble d'être invité à votre podcast. Merci.
Merci infiniment, Francis. Est-ce que tu as un petit mot de la fin?
Bien, je vais te dire remercier Jean-Sébastien, parce que c'est rare que les gens prennent le temps de nous remercier dans leur moment. Fait que merci. Puis pour ceux qui aiment l'épisode, likez, partagez, petits commentaires, ça nous aide à promouvoir, faire connaître le podcast. C'est toujours apprécié.
Il me reste plus qu'à vous dire merci pour votre écoute et it's a wrap!